Voilà, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais nous en étions arrivés à l'économie de communion. Et dans le numéro 41 de son encyclique, le pape, alors c'est une idée que j'ai déjà évoquée ce matin, mais que je développe un petit peu maintenant, à savoir que donc le pape parle de l'entreprise, de la signification plurivalente, hein, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs significations à l'entrepreneuriat. Autrement dit, tout ne se réduit pas au face-à-face entre le haut fonctionnaire et l'entrepreneur privé de type capitaliste. Et c'est donc l'occasion de découvrir que la finalité, que, au fond l'entreprise a plusieurs finalités et que le profit n'est pas sa seule finalité. Autrement dit, il faut permettre à chacun des salariés, y compris pour la bonne marche de la boîte d'ailleurs, d'exercer une forme de co-responsabilité. C'est d'ailleurs assez amusant, mais c'est un terme qui en tout cas dans notre histoire économique ou notre histoire sociale a tenu une certaine part. La notion, vous en parlerez à vos parents, ça leur dit quelque chose, voire à vos grands-parents, mais qui s'est beaucoup développée dans le gaullisme social, c'est l'idée de participation. Hein, c'est de faire que, et c'est une idée qui revient régulièrement, enfin, y compris dans la bouche de notre chef d'État actuel, mais c'est une idée assez ancienne, l'idée que le travailleur n'est pas qu'un travailleur, il est aussi un associé à la bonne marche de l'entreprise, et que plus on l'associe à la bonne marche de l'entreprise, eh bien, plus on lui permet de développer au fond ou d'atteindre sa finalité. C'est d'autant plus facile aujourd'hui que grâce à la technique, eh bien, il est évident qu'un certain nombre de tâches très, très mécaniques ou très, très ennuyeuses justement sont assumées par la machine. Donc il faut penser à un redéploiement possible de la main-d'œuvre sur d'autres tâches. Et c'était au fond cette idée de participation, l'idée de sortir de la querelle stérile de la lutte des classes, mais il faut aussi comprendre que cette lutte des classes était suscitée par des situations d'égoïsme en raison justement de la recherche anti-humaniste du seul profit. Le pape parlera un peu plus loin de subsidiarité, enfin on va y revenir à propos de la subsidiarité, mais il parle aussi d'une subsidiarité fiscale. Il propose l'idée qu'on puisse permettre aux citoyens d'orienter une part de leur fiscalité, de leur imposition, vers des formes de solidarité sociale. On le peut déjà d'une certaine façon, puisque vous le savez qu'on peut déjà, par exemple, si vous faites un chèque à l'ordre de l'abbaye d'Ourscan, eh bien, c'est déductible des impôts, donc c'est en quelque sorte que l'État vous permet, dans un plafond, évidemment limité par un plafond, mais vous permet de réorienter votre fiscalité au profit ou au service de telle ou telle œuvre de salut public. Alors, évidemment, c'est souligné, et la crise nous a fait découvrir ou redécouvrir cela, c'est la place centrale comme pouvoir de régulation de l'État. On avait un peu trop affirmé que l'État s'était terminé. Or, on s'est bien rendu compte que c'est justement l'État, la communauté politique, qui a en charge le bien commun, qui est à même justement de protéger les personnes. Autrement dit, l'État rappelle que l'homme n'est pas qu'un être économique et qu'il n'est jamais une marchandise. Mais du coup, il doit être aussi fidèle à sa vocation. Il ne doit pas se dérober à sa responsabilité propre, hein, qui est justement de défendre le bien commun de la collectivité. Et donc ce bien commun de la collectivité passe par la défense de la famille, de la vie, et de tout, en raison de la valeur infinie de toute existence humaine. Autrement dit, cela signifie que l'État lui-même doit prendre conscience qu'on ne peut limiter l'homme à une dimension unidimensionnelle, hein, l'homme en tant que consommateur, ou en tant qu'agent économique. Encore une fois, il est bien plus que cela. Ce qui signifie, hein, c'est qu'on n'a pas besoin, on a besoin d'aborder l'humanité, comme je vous l'ai dit ce matin, c'est un leitmotiv dans l'enseignement du pape, hein, c'est qu'il ne faut pas aborder l'homme le mystère de l'homme avec un critère qui soit trop réducteur. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, si on oublie que cette vocation surnaturelle de l'homme, si on oublie qu'il est ouvert à l'infini, et que c'est ça sa particularité, sa caractéristique, eh bien, on ne se demandera pas comment servir l'homme, hein, mais beaucoup plus, au fond, comment le manipuler. Et donc, on cherchera à dégager du temps de cerveau utile pour Coca-Cola, rendre du cerveau disponible, pardon, pour Coca-Cola, pour reprendre une expression célèbre. Hein, c'est la formule, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait une école de commerce, mais c'est une des formules que l'on enseigne. Je m'excuse, c'est un tout petit peu grossier, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, on inculque à nos futurs commerciaux, hein, il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais rappelez-vous qu'ils le sont. Voilà. Hein, c'est au fond l'art de la manipulation. Là, on voit bien qu'un critère qui peut être efficace quand il s'agit de placer des aspirateurs ou de l'armement lourd, ça peut être efficace pour une activité, évidemment, pour le type d'activité, mais il est évident que ce système-là généralisé, eh bien, aboutit à la crise que nous avons connue. C'est pour ça que je reviens au texte numéro 3, hein, donc la sagesse chrétienne au service du développement de l'homme, hein, qui justement plaide pour une présentation un peu plus, une approche plus sérieuse, plus complète de l'homme. Et le pape Benoît XVI cite son prédécesseur, Paul VI avait vu clairement que parmi les causes du sous-développement, il y a un manque de sagesse, de réflexion, de pensée capable de réaliser une synthèse directrice, par laquelle une claire vision de tous les aspects économiques, sociaux, culturels et spirituels est exigée. Le morcellement excessif du savoir, la fermeture des sciences humaines à la métaphysique, les difficultés du dialogue entre les sciences et la théologie portent préjudice non seulement au développement du savoir, mais aussi au développement des peuples, car quand cela se vérifie, il devient plus difficile de distinguer le bien intégral de l'homme dans les différentes dimensions qui le caractérisent. L'élargissement de notre conception et de notre usage de la raison est indispensable pour réussir à peser adéquatement tous les termes de la question du développement et de la solution des problèmes socio-économiques. Par la suite, le pape refuse de conclure à la fin de l'État, hein, son numéro 41. Autrement dit, la crise a montré quelle était sa place, même s'il faut aussi laisser la place à une plus grande coopération et concertation interétatique. De même, c'est l'État qui a la structure suffisante pour lutter contre les injustices économiques avec autorité, pour lutter contre la corruption, contre l'insécurité, et aussi qui permet de réguler l'aide internationale, même si évidemment, en ce domaine, les ONG, les organisations non gouvernementales, ont un rôle très important à jouer. D'ailleurs, c'est amusant parce que dans le numéro 47, le pape invite celles-ci, donc les associations, les ONG, à ne pas gaspiller trop d'argent dans leurs propres frais de fonctionnement et de représentation, et donc à faire aussi un effort de transparence. On est très exigeant vis-à-vis de l'État, mais c'est aussi très important. Mais à partir du moment où on vous confie de l'argent, hein, il y a un devoir de responsabilité. Alors on sait très bien qu'il y a une part non négligeable du budget part dans l'information, dans la formation des cadres et dans le fait que c'est pas parce qu'on travaille pour une ONG qu'on n'a pas le droit à avoir un salaire décent. Mais il est vrai aussi que régulièrement, il y a comme ça des scandales à propos d'ONG où on voit 30, 40, 50, 60% de leur budget, hein, qui vient des dons ou de subventions, qui part dans les frais internes. Donc c'est très important d'être attentif aussi à cette dimension-là. Troisième grande partie, la protection de l'environnement et l'unité de la famille humaine. Alors je dirais que, évidemment, parler de l'environnement, c'est une problématique assez nouvelle, enfin assez nouvelle et très traditionnelle dans l'Église, puisque si vous ouvrez justement le livre de la Genèse, vous vous rendez compte que l'homme a été établi par Dieu gardien de la création. Nous avons donc la mission de garder, c'est-à-dire d'aménager cette terre. Et donc, dans le contexte actuel, il s'agit de lui faire produire à cette terre ce qu'il faut pour nourrir la population mondiale. D'où évidemment une indispensable sobriété. Il y a des biens de consommation qui se renouvellent, parce que le domaine de l'agriculture, à condition de ne pas épuiser les terres, évidemment. En revanche, on sait très bien que pour tout ce qui est hydrocarbures, à moins de découvrir de nouvelles réserves, et pourquoi pas, ça peut arriver, et ça arrive, mais on sait très bien que les énergies d'origine fossile ne sont pas inépuisables. Bon, même si assez régulièrement, on nous annonce que c'est terminé pour 2005, 2006, 2007, à chaque fois on recule la date, bon, parce que justement il y a des nouveaux gisements ou parce qu'on apprend aussi à mieux utiliser. Mais donc on est invité à une indispensable sobriété, et pas simplement durant le temps de carême. Mais ça, c'est la morale chrétienne, en effet, ne cesse de rappeler, pour des tas de raisons, hein, que ce que nous avons reçu, nous devons lui faire donner son maximum. Alors le problème, c'est qu'on se trouve dans une double situation aujourd'hui. Hein. Soit on va en quelque sorte adorer la terre, hein, la nature, en faisant de l'homme le plus grand malheur qui lui soit arrivé. Donc ça, c'est un courant écologiste, on va dire, très radical, un côté un peu Khmer vert. Soit on l'exploite sans vergogne. Alors, ben, il faut trouver le juste équilibre. Le juste équilibre, c'est de découvrir que ce qui est mis à notre disposition par le Créateur nous aide à accomplir notre vocation, encore une fois, mais ne doit pas être épuisé. On a donc à gérer, hein, c'est aussi un terme qui dans les paraboles revient très souvent, hein, le bon gérant, celui qui s'est donné qui pendant l'absence du maître sait répartir le travail, répartir les tâches et donner à chacun ce dont il a besoin, eh bien nous sommes les gérants, nous sommes responsables de cette terre, ce qui signifie que nous aurons des comptes à rendre. C'est exactement la parabole des talents. Nous devons, avec ce qui compte, c'est là, ça va être très, très économique, mais ce que le bon Dieu nous demande, c'est la valeur ajoutée. On n'est jamais responsable de ce que l'on reçoit, mais on est responsable justement de la valeur ajoutée, de ce qu'on a réussi à faire donner à ce qui nous a été confié. Donc c'est pas la peine de regarder avec envie et jalousie vers le jardin du voisin, d'abord parce que l'envie et la jalousie, ce sont des très vilains défauts, très laids, et ensuite parce que c'est une perte de temps. Ce sur quoi on sera jugé, encore une fois, c'est pas ce qu'on a reçu dans la grande loterie de la vie, c'est ce qu'on en a fait. Comme disait l'autre, hein, on n'est pas responsable de la tête que l'on a, on est responsable de la tête que l'on fait. Bon. Cela exige de retrouver le sens profond de la création dans son ensemble et de l'ordre naturel des choses qui est le reflet de la sagesse et de la raison divine. La morale naturelle, dont on vous a sans doute déjà parlé, c'est de dire que c'est une morale qui est conforme à la nature de l'homme, qui est d'être raisonnable. Et donc ce qui nous frappe, comme disait Einstein, le plus incompréhensible dans tout ça, c'est que tout ça soit compréhensible, c'est qu'il y a une intelligibilité dans le réel qui manifeste et qui est comme un reflet de la sagesse divine. Il y a un ordre de la nature, dans le sens, pas des ordres que l'on donne, mais un ordre que l'on contemple, qui nous donne justement une idée de la sagesse divine. Et donc, comme l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il se doit aussi, si je puis dire, de mettre de l'ordre en toute chose, de reproduire, comme dit le pape Benoît XVI, l'œuvre de Dieu qui est une œuvre raisonnable, l'œuvre du Logos. Et donc, c'est nous offrir le thème d'une véritable écologie, qui n'est pas simplement protégeons notre terre parce que voilà, on n'en a qu'une, ce qui est vrai, mais encore une fois, c'est très difficile de mettre en œuvre une politique en fichant la trouille à tout le monde. Ça, je crois que c'est... Je fais référence à quelques films bien connus, mais je crois qu'on a toujours plus intérêt, alors bien sûr, je n'ai pas de temps en temps, comme les bons prédicateurs, bonne frousse de l'enfer, là, qu'on sent un peu les flammes de l'enfer, bon, ça peut être le premier pas de la conversion, mais ce n'est pas suffisant. Eh bien, je crois que c'est comme dans l'œuvre d'éducation, je ne dis pas qu'une bonne taloche, ça ne fait pas de bien, ça ne permet pas de remettre toutes les idées d'équerre, mais il n'empêche que dans l'éducation, il faut donner la priorité à l'intelligence, s'adresser toujours à l'intelligence d'un enfant, beaucoup plus qu'à sa volonté. Et c'est pas évident. Et c'est fatigant. Mais on ne perd jamais son temps à s'adresser à l'intelligence. Et donc, ce qui nous est proposé, c'est donc des principes d'une écologie qui soit globale, qui ne soit pas simplement pour préserver cette terre, mais qui soit aussi, voyons, quelle conception avons-nous de la création ? Nous sommes invités à respecter la création, mais est-ce que nous nous respectons nous-mêmes ? Est-ce que nous respectons les autres qui sont les membres de cette création ? Sachant aussi que cette création est hiérarchisée. Tout est respectable dans la nature, mais c'est hiérarchisé. Voilà. Bien sûr, on est tous, comment dire, on se doit par exemple de préserver autant que faire se peut des espèces en voie de disparition. Enfin, c'est peut-être l'homme d'abord qui s'agit de sauver. Voilà, donc il s'agit d'avoir une vision un petit peu hiérarchisée des choses, sachant que ben, c'est aussi la loi de la nature qu'il y ait des espèces qui disparaissent, qui apparaissent, etc. Bon. Et voilà ce que vous voyez où je veux en venir. C'est parfaitement résumé dans le numéro 51, c'est le texte numéro 5 que vous avez sous les yeux. Donc, encore une fois, c'est les principes d'une écologie totale, globale, et qui commence par le droit, justement, à la vie. Si le droit à la vie et à la mort naturelle n'est pas respecté, si la conception, la gestation et la naissance de l'homme sont rendues artificielles, si des embryons humains sont sacrifiés pour la recherche, la conscience commune finit par perdre le concept d'écologie humaine, et avec lui, celui d'écologie environnementale. Exiger des nouvelles générations le respect du milieu naturel devient une contradiction, quand l'éducation et les lois ne les aident pas à se respecter elles-mêmes. Le livre de la nature est unique et indivisible, qu'il s'agisse de l'environnement comme de la vie, de la sexualité, du mariage, de la famille, des relations sociales, en un mot, du développement humain intégral. Les devoirs que nous avons vis-à-vis de l'environnement sont liés aux devoirs que nous avons envers la personne considérée en elle-même et dans sa relation avec les autres. On ne peut exiger les uns et piétiner les autres. C'est là une grave antinomie de la mentalité et de la praxis actuelle, c'est la pratique, qui avilit la personne, bouleverse l'environnement et détériore la société. Voilà pourquoi je parlais d'une exigence d'une écologie globale. Autrement dit, la mondialisation et l'avenir de la planète sont des problèmes qui doivent être abordés de façon rationnelle et raisonnable et qui n'ont pas à être subis. Et cela est vrai à propos de la gestion des ressources énergétiques non renouvelables. Mais cela suppose une prise en compte globale du problème, comme le fait la philosophie ou la théologie. Encore une fois, on ne peut faire l'économie d'une réflexion sur ce qu'est l'homme. Et c'est d'ailleurs, parce que je vous ai dit, le pape aborde en fait, à partir de ce nœud, de cette notion d'évolution et de progrès et de développement, il aborde une foultitude de questions. Hein, et là, il dit, bah, c'est peut-être aussi un critère d'évaluation de la valeur des différentes traditions religieuses. Hein, de se dire, au fond, comment chacune valorise l'homme, hein, quelle est la vision de l'homme dans telle ou telle tradition religieuse. Et évidemment, et ça il est tout à fait dans son rôle, hein, le pape invite la société à ne pas se passer de la lumière de l'évangile. Et donc voilà pourquoi aussi on ne peut, et c'est le grand débat sur la fameuse laïcité dite positive, hein, mais qui est surtout virulent d'ailleurs en France, mais voilà pourquoi on ne peut exclure le christianisme de la vie de la société. Quand on dit, et ça vous ne cessez de l'entendre, mais la laïcité, hein, c'est qu'on fait de la religion une réalité privée. Or, c'est absurde, parce que la religion est essentiellement une réalité sociale, visible. Il n'y a pas de religion sans visibilité. Il n'y a pas de religion sans que, justement, on se retrouve en communauté. Et ça, ce que je vous dis, c'est un propos, je dirais, purement sociologique. Donc, il est de la nature même du fait religieux d'être un fait repérable, historique, social, et donc, mais dans le sens le plus noble du terme, politique. Hein, donc il faut vous méfier de ces slogans, il faut toujours voir ce qu'il y a derrière, et bon, là, on voit bien ce dont on a peur, ou quel est le fantasme qu'il y a derrière, mais pour permettre un vrai dialogue dans notre société, il faut éviter d'employer des expressions qui en fait n'ont pas de sens. Autrement dit, entre laïcisme, qui est justement l'exclusion de la sphère du politique. Et puis, ce qui serait une forme de fondamentalisme, hein, de penser que justement l'Évangile vous dit exactement ce qu'il faut faire du point de vue politique, hein, à la manière de certains groupes un peu baroques protestants américains, eh bien, il y a un chemin, c'est-à-dire un chemin un peu étroit, mais qui est le dialogue fécond entre justement la foi et la raison. C'est que le pape insiste aussi beaucoup sur cette dimension-là. La foi, c'est ce qui donne à la raison de ne pas s'enfermer sur un critère trop limité, hein, qui deviendrait réducteur, hein, et qui fait que le système tourne un peu en rond. Mais la raison est aussi très importante pour la foi, parce que ça permet d'éviter de limiter la religion, justement, à ces aspects un peu comment dire, émotionnels ou volontaristes, ou que sais-je encore. C'est ainsi qu'il est possible de rendre l'homme acteur de son propre développement. Autrement dit, contre le fatalisme ambiant, hein, ou le catastrophisme, hein, qui conduit à imposer des décisions radicales toujours d'en haut, au mépris justement du principe de subsidiarité. Hein, parce qu'à travers tout le discours qui nous est imposé, hein, entre autres, c'est toujours dire, vous savez, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein, c'est ça ou c'est la catastrophe? Bah oui, non, enfin, je ne sais pas, il faut voir. En tout cas, c'est le principe quand même de nos sociétés, c'est que bah, ce qui concerne tout le monde doit être décidé par tous. Et donc il s'agit beaucoup plus de faire réfléchir les gens plutôt que leur dire bah, « attention, si vous ne le faites pas, ça ira très mal pour vous ». C'est justement le principe de subsidiarité, alors qu'il y a un mot dont vous avez... Enfin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est pourtant une des notions clés de la doctrine sociale de l'Église. Le principe de subsidiarité, enfin avant de lire le texte, c'est de permettre de résoudre les problèmes à l'échelon où ils se posent. C'est-à-dire que ce n'est pas l'autorité, en ce sens l'autorité qui occupe le haut de la pyramide, qui a réglé tous les problèmes. Mais on doit régler le problème au niveau où il se trouve. Et puis, si on n'y arrive pas, alors on passe au degré au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, c'est évidemment aussi très important à propos des familles, du droit de la famille, d'autant plus que la famille, comme je l'ai dit ce matin, est antérieure à toute forme d'organisation politique, ce qui signifie que, de cette façon, l'État est au service des familles, et pas le contraire. Et que c'est le rôle de l'État d'aider les familles à accomplir leur mission. Et que c'est clairement, si les familles n'y arrivent pas, qu'il y a une fonction de suppléance de la part de l'État. Alors maintenant, je lis ce... Donc c'est pour vous situer un petit peu. Alors, c'est une notion qui était, si je me rappelle bien, introduit par le pape Pie XI, hein, justement face au totalitarisme d'État, hein, qui a rappelé l'importance des corps intermédiaires, hein, que l'individu n'est pas tout seul et tout nu face à l'État, mais qu'il y a toute une série d'appartenances intermédiaires, et que ben, il est bon et il est sain que cela puisse fonctionner. Je dis ça parce qu'en plus, dans notre tradition française, qui est très centralisatrice, c'est une notion qui nous est sans doute moins familière que dans des régimes de type d'organisation plus fédérative comme par exemple l'Allemagne ou l'Espagne. Mais je dirais, peu importe le type d'organisation politique, la réalité, elle doit être là. Alors, donc c'est le texte numéro 6. Le principe de subsidiarité, expression de l'inaliénable liberté humaine, est à cet égard une manifestation particulière de la charité et un guide éclairant pour la collaboration fraternelle entre croyants et non-croyants. La subsidiarité est avant tout une aide à la personne à travers l'autonomie des corps intermédiaires. Cette aide est proposée lorsque la personne et les acteurs sociaux ne réussissent pas à faire par eux-mêmes ce qui leur incombe, et elle implique toujours que l'on ait une visée émancipatrice qui favorise la liberté et la participation en tant que responsabilisation. Vous savez, c'est le fameux proverbe, hein, si tu donnes un poisson à un homme, tu lui permettras de faire un repas. Si tu lui apprends à pêcher, eh bien, tu lui permets de vivre. Voilà, c'est ça. C'est l'idée d'aider, mais pour responsabiliser. La subsidiarité respecte la dignité de la personne en qui elle voit un sujet toujours capable de donner quelque chose aux autres. En reconnaissant que la réciprocité fonde la constitution intime de l'être humain, la subsidiarité est l'antidote le plus efficace contre toute forme d'assistance paternaliste. C'est au fond, c'est exactement comme ça que Dieu agit vis-à-vis de nous. Il nous offre le salut, mais une fois que nous avons reçu la grâce du salut, eh bien, il demande que nous participions à notre propre salut. Et donc, nous devons... Et voilà pourquoi le mystère de l'incarnation. C'est que Jésus-Christ dans son humanité, a parfaitement coopéré à l'œuvre du salut. Eh bien, ce que Dieu a réalisé en Jésus-Christ, il le réalise en chacun d'entre nous. Et donc, nous devons faire ainsi. Et la subsidiarité, c'est de permettre à l'autre, avec mon aide, de devenir acteur de son propre développement. Et c'est exactement ce qu'on fait dans l'éducation, d'ailleurs, aussi. Il est évident qu'il n'y a pas d'égalité dans l'éducation, mais le but, c'est que, justement, un jour, comme disait Gabriel Marcel, c'est la joie pour son père, c'est pouvoir... La plus grande joie pour son père et le signe d'une éducation réussie, c'est quand il peut parler à son fils d'homme à homme. Parce que, justement, le père, par son éducation, a permis à son fils de devenir ce que lui est. Elle peut rendre compte aussi bien des multiples articulations entre les divers plans et donc de la pluralité des acteurs que de leur coordination. Il s'agit donc d'un principe particulièrement apte à gouverner la mondialisation et à l'orienter vers un véritable développement humain. Donc, il ne s'agit pas du tout de décisions prises par quelques-uns et imposées à tous, mais tout le monde doit prendre sa part. Pour ne pas engendrer un dangereux pouvoir universel de type monocratique, la gouvernance de la mondialisation doit être de nature subsidiaire, articulée à de multiples niveaux et sur divers plans qui collaborent entre eux. La mondialisation réclame certainement une autorité, puisque est en jeu le problème du bien commun qu'il faut poursuivre ensemble. Cependant, cette autorité devra être exercée de manière subsidiaire et polyarchique pour, d'une part, ne pas porter atteinte à la liberté et, d'autre part, être concrètement efficace. C'est exactement comme une mère de famille. Elle pourrait très bien faire des choses directement pour les enfants, pour les petits derniers, mais elle sait très bien que c'est beaucoup plus éducatif et beaucoup plus intelligent de passer par les aînés. Donc elle associe à son autorité sur les enfants les plus grands. Et comme ça, l'œuvre, alors c'est un peu moins bien fait. Ça, c'est vrai que c'est souvent très, comment dire, très, très difficile, très, très pénitentiel de faire à quelqu'un quelque chose alors qu'on sait très bien qu'on le ferait mieux soi-même. Mais c'est le principe de l'éducation aussi. Et pour, donc, à moyen terme et à long terme, c'est beaucoup plus payant. Donc, c'est ça, c'est de permettre d'associer à la décision ceux qui sont en dessous de nous. Donc, c'est ça le principe de subsidiarité. C'est de permettre à chacun, encore une fois, de devenir acteur de son propre développement. Alors, cette écologie humaine amène aussi à prêter attention aux différentes cultures, qui sont souvent porteuses d'une véritable sagesse et qui témoignent de la présence de principes moraux universels, justement, qu'on appelle la loi naturelle. C'est aussi le danger aujourd'hui, c'est que c'est celui qui paye qui impose son modèle, et spécialement son modèle culturel. Et justement, le christianisme, lui, qui a pris l'habitude de s'incarner, si je puis dire, de s'inculturer dans des cultures très différentes, mais justement apporte sa lumière propre. C'est-à-dire qu'à la fois elle valorise cette lumière de l'évangile, tout ce qui est vrai, tout ce qui est bon, tout ce qui est juste dans ces cultures, et en même temps, par son ouverture au transcendant, eh bien, le christianisme permet à ces cultures justement de ne pas s'enfermer dans une forme de, si je puis dire, de nationalisme culturel, de s'ouvrir à l'universel. Et ça, c'est très important d'être à la fois enraciné dans sa culture, mais justement, la culture, c'est ce qui nous ouvre à l'universel. Mais selon des formes d'expression qui peuvent être très, très différentes. De même, il n'y a pas de développement, et là, si je puis dire, d'église, là, joue sous du velours, parce que s'il y a vraiment un truc où les spécialisés, c'est bien ça, il n'y a pas de développement sans éducation. Et donc l'église est souvent revenue sur ces questions, par exemple en défendant le droit des familles à choisir l'éducation de leurs enfants, éducation dont ils sont les premiers responsables. Et puis elle propose aussi des principes d'éducation, tant à travers donc ses rappels, mais aussi à travers ses nombreuses institutions d'éducation, et même ses congrégations enseignantes. Dans une période de doute et de relativisme, elle rappelle justement que c'est l'éducation qui est le chemin du développement intégral de la personne, puisque chacun est poussé par l'éducation à prendre sa part dans le développement de l'humanité et d'accomplir sa vocation. À ce titre-là, l'éducation n'est jamais terminée. Le pape évoque aussi, donc ça c'est le numéro 73, l'importance des médias qui normalement doivent être référés aux valeurs du vrai et du bien. Et si c'est le cas, eh bien ça continue à faire grandir la solidarité entre les peuples. Inutile de dire qu'il y a du boulot. Enfin, le pape aborde un certain nombre de problèmes, toujours dans ses perspectives de développement et d'écologie totale, si je puis dire, globale. Il y a aussi le problème des flux migratoires et le problème du sous-emploi, qui évidemment sont ravivés par le phénomène de crise. Et je vous ai parlé ce matin de la mission et de la place des activités syndicales, parce qu'il est évident que du salarié à l'employeur, les rapports ne sont pas tout à fait égaux. On peut dire, bah oui, mais c'est contractuel. Mais voilà, pour raison que vous imaginez bien. Et donc il est important que ces salariés puissent s'organiser. Mais le pape souligne que le rôle des syndicats, ce n'est pas simplement, et d'abord, enfin, c'est pas d'abord, si chronologiquement, si c'est de défendre les droits de leurs syndiqués, de leurs adhérents, mais aussi de réfléchir justement à la signification profonde du travail, cette solidarité dans le travail. Et voilà pourquoi il paraît très important que ce syndicalisme apparaisse comme indépendant des partis politiques. Et enfin, le pape en appelle à une réforme profonde tant de l'organisation des Nations Unies, du point de vue politique, que des règles régissant la finance internationale. Le dernier chapitre de l'encyclique porte sur le développement des peuples et de la technique. Et là, évidemment, on revient à des notions anthropologiques fondamentales, à savoir que aujourd'hui, tout semble possible. J'ai été très frappé au moment où on a vu le premier clone, la brebis Dolly, il y a une quinzaine d'années maintenant. Il y avait une émission à la radio là-dessus. Et il y avait, donc évidemment, tout le monde disait, non, pas question, clonage humain, il n'en est pas question. Et un journaliste scientifique, de façon un peu désabusée, avait dit, écoutez, moi aussi je suis horrifié par les perspectives que ça ouvre, mais je dois quand même faire un constat, c'est que tout ce que la science peut faire, elle le fait un jour. Donc ça pose effectivement un problème très grave. C'est peut-être l'expérience la plus radicale de la liberté que nous puissions faire. Parce que justement, la liberté, cela consiste à renoncer à un pouvoir que nous avons, parce que nous savons que ce que nous allons réaliser n'est pas conforme au bien ou au vrai. Et que la première marque de la liberté, c'est pas d'inventer un monde, c'est d'accueillir justement la réalité telle qu'elle est. Et donc il n'y a pas de liberté en dehors du vrai et du bien. Certes, la technique est utile, c'est quand même plus facile d'utiliser une tondeuse à gazon que de devoir couper sa pelouse au sécateur, voire la pince à épiler. Donc la technique permet à l'homme de garder et de cultiver la terre selon le dessein du Créateur, mais rien ne peut se substituer au jugement moral. Il n'est pas bon pour l'homme ce qui est techniquement réalisable. C'est le texte numéro 7. La pire des idéologies et donc des dictatures, une technique sans conscience. Alors, ça, le titre n'est pas du pape, il est de moi. Mais voilà le contenu, je crois que ça correspond assez bien au contenu. Le processus de mondialisation pourrait substituer aux idéologies la technologie. Bon, les idéologies, elles sont mortes, avec le XXe siècle. Mais comme l'homme a besoin d'avoir ses idoles, eh bien, qu'est-ce qui va remplacer les idéologies? C'est la technologie que l'on croit faussement neutre, devenu à son tour un pouvoir idéologique qui exposerait l'humanité au risque de se trouver enfermée dans un a priori d'où elle ne pourrait sortir pour rencontrer l'être et la vérité. Dans un tel cas, tous nous connaîtrions, apprécierions et déterminerions toutes les situations de notre vie à l'intérieur d'un horizon culturel technocratique auquel nous appartiendrions structurellement sans jamais pouvoir trouver un sens qui ne soit pas notre œuvre. Là, c'est dit de façon très... C'est la première fois que dans un document du Saint-Siège, en général et du pape en particulier, il y a là aussi bien résumé ce qui nous attend. C'est-à-dire qu'on ne se posera même plus la question, parce que la question n'a plus de sens. C'est vous savez, quelques philosophes qui ont anticipé ça, hein, dont un certain qui s'appelle Michel Henry, il ne faut pas confondre avec Henri Michel, le footballeur, Michel Henry, qui est mort il y a quelques années, qui a écrit dans les années 70, 80 peut-être, enfin tout début des années 80, un essai qui s'appelle « La barbarie », hein, et qui montrait, c'est quelqu'un qui s'est converti au christianisme à la fin de sa vie, mais qui n'était absolument pas chrétien à ce moment-là, et qui a montré au fond comment justement, par ce qu'il appelle les technosciences, il y a cette sorte de... Alors qu'au moment où il a écrit, si je puis dire, les idéologies marchaient encore à plein pot. Hein. Eh bien, il a montré qu'à ces idéologies-là, allaient se substituer les technosciences. Hein. Et c'est exactement ce que le pape résume ici. Hein, c'est, je veux dire, c'est, parce qu'on imagine tout de suite, on pourrait dire, ah ben oui, mais ça ne fonctionnera pas. Et comme il le dit, mais si, à partir du moment où, même s'il y avait un scientifique qui dit, qui par miracle, se lever pour dire « moi je joue plus, hein, c'est fini, ça, on va à la folie hein, », eh bien il y en a 100 qui se lèveront pour prendre sa place. Cette vision donne aujourd'hui à la mentalité techniciste tant de force qu'elle fait coïncider le vrai avec le faisable. Mais lorsque les seuls critères de vérité sont l'efficacité et l'utilité, le développement est automatiquement nié, parce qu'il n'y a plus de liberté. En effet, le vrai développement ne consiste pas d'abord dans le faire. La clé du développement, c'est une intelligence capable de penser la technique et de saisir le sens pleinement humain du faire de l'homme sur l'horizon de sens de la personne prise dans la globalité de son être. Même quand l'homme agit à l'aide d'un satellite ou d'une impulsion électronique à distance, son action reste toujours humaine, expression d'une liberté responsable. La technique attire fortement l'homme parce qu'elle le soustrait aux limites physiques et qu'elle élargit son horizon. Mais la liberté humaine n'est vraiment elle-même que lorsqu'elle répond à la fascination de la technique par des décisions qui sont le fruit de la responsabilité morale. Il en résulte qu'il est urgent de se former à la responsabilité éthique dans l'usage de la technique. Partant de la fascination qu'exerce la technique sur l'être humain, il suffit de voir comment quand le dernier iPod ou que sais-je encore là, est lancé, à quel point ça devient un événement mondial. Ah ben, ça fonctionne exactement sur ce critère-là. Et donc, c'est plus que du snobisme, hein. Mais on ne peut pas vivre si on n'a pas le dernier iPad. Oui. On doit retrouver le vrai sens de la liberté qui ne réside pas dans l'ivresse d'une autonomie totale, mais dans la réponse à l'appel de l'être, en commençant par l'être que nous sommes nous-mêmes. Sans cette conscience et cette responsabilité morale, chacun prend la fin de son activité propre, qui n'a valeur que de moyens, pour le but de sa vie. Par exemple, pour le chef d'entreprise, ce sera le profit maximum. Pour l'homme politique, ce sera la concentration du pouvoir. Avec de très bons principes, c'est-à-dire, oui, mais attendez, moi qui suis plutôt pas mal et peut-être même meilleur que les autres, si je peux avoir le maximum de pouvoir, c'est autant de temps gagné. Ou encore, pour le scientifique, ce sont les prouesses techniques, etc., etc. On se ferme alors à l'appel des peuples les plus pauvres qui justement ne bénéficient pas de ces techniques. Et donc on risque de graves dérives dans le domaine de la bioéthique par exemple, puisqu'on a affaire à une raison qui se ferme à la transcendance et donc à la question du sens et de la valeur. Et donc on arrive à un nouveau matérialisme qui nie l'existence en l'homme d'une âme qui est sujet d'un développement spirituel. Ça, on en a eu aussi assez bien l'illustration de ce matérialisme. Par exemple, on va réduire tout ce qui est de la vie de l'esprit à un jeu neuronal, nos neurones. Pas très longtemps après la guerre, Churchill a fait visiter une très grande université, je crois que c'était l'université de Berkeley aux États-Unis. Et là, il y a eu une sorte de doyen de la faculté des sciences qui a fait tout un discours pour expliquer que avec le développement des sciences cognitives, à l'avenir, on pourrait justement déterminer le futur petit Hitler. Donc, à partir du moment où on l'a repéré, eh bien, on peut l'évacuer, et donc on évitera un nouvel Hitler. Et donc, c'était très bien. Donc, c'est vraiment le meilleur des mondes, quoi. Et Churchill prend la parole et dit, donc, monsieur le doyen vient de nous expliquer comment il espère un jour pouvoir tout maîtriser par les sciences cognitives et scientifiques, eh bien, j'espère que quand ce moment sera arrivé, je serai mort depuis déjà très longtemps. Parce que justement, c'est ce système-là, tel qu'il nous est décrit, et qu'il est décrit dans le texte numéro 8, eh bien, le grand risque, c'est de renoncer à toute capacité de résister à ce qui n'est pas humain. Dans le texte que je vous propose, le problème du développement est strictement lié aussi à notre conception de l'âme humaine. Dès lors que notre moi est souvent réduit à la psyché et que la santé de l'âme se confond avec le bien-être émotionnel. C'est toute la dictature de l'épanouissement. Au fond, on a atteint sa vocation si on est épanoui. Alors, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas être épanoui, mais il n'y a qu'à le regarder. Mais l'épanouissement, ce n'est que le résultat, que le signe d'une réalité, hein, que l'on est au fond en accord avec sa vocation, qu'on cherche à accomplir sa vocation. Hein, je crois que les saints ne se sont jamais demandé s'ils étaient épanouis. Ils se sont demandé comment être fidèles au quotidien, comment être fidèles au Seigneur. Mais de fait, c'est comme ça qu'ils ont rayonné. Ces réductions se fondent sur une profonde incompréhension de la vie spirituelle et elles conduisent à méconnaître que le développement de l'homme et des peuples dépend en fait aussi de la résolution de problèmes de nature spirituelle. Le développement doit comprendre une croissance spirituelle et pas seulement matérielle, parce que la personne humaine est une unité d'âme et de corps, née de l'amour créateur de Dieu et destinée à vivre éternellement. L'être humain se développe quand il grandit dans l'esprit, quand son âme se connaît elle-même et connaît les vérités que Dieu y a imprimées en germe, quand il dialogue avec lui-même et avec son Créateur. Loin de Dieu, l'homme est inquiet et fragile. L'aliénation sociale et psychologique, avec toutes les névroses qui caractérisent les sociétés opulentes, s'explique aussi par des causes d'ordre spirituel. Une société du bien-être, matériellement développée mais oppressive pour l'âme, n'est pas de soi orientée vers un développement authentique. Les nouvelles formes d'esclavage de la drogue et du désespoir dans lesquelles tombent de nombreuses personnes ont une explication non seulement sociologique et psychologique, mais essentiellement spirituelle. Le vide auquel l'âme se sent livrée, malgré de nombreuses thérapies pour le corps et pour la psyché, produit une souffrance. Il n'y a pas de développement plénier et de bien commun universel sans bien spirituel et moral des personnes, considérées dans l'intégrité de leur âme et de leur corps. Conclusion, eh bien, comme vous le voyez, la tâche est immense. Mais avant de penser pouvoir agir sur les structures et les mécanismes, le chrétien a besoin de comprendre deux choses. D'une part, quel est le dessein de Dieu sur l'humanité ? Et quelles sont les conditions véritables d'un authentique progrès. Et je crois que ce week-end veut vous y aider. Et puis, deuxièmement, se dire que... compter sur la grâce. Je veux dire par là que Dieu ne vous a pas attendu pour sauver l'humanité et que le risque, c'est justement d'être complètement écrasé par cette fatalité. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, sachez que c'est une vérité de foi, qu'il y a toujours, et les saints n'ont pas fait autrement, il y a toujours un bien qui nous est accessible et réalisable avec la grâce de Dieu. Et que ce que Dieu nous demande, c'est d'accomplir notre tâche là où nous sommes. Et le reste, si je puis dire, nous sera donné de surcroît. Parce qu'il sait très bien la situation dans laquelle il se trouve, et donc il nous donne la grâce pour répondre au mieux à notre vocation dans le contexte où nous sommes. Et donc le temps de réflexion et de formation que vous vous ménagez, ici, en passant ce week-end, eh bien en fait, le but, c'est vraiment de vous faire gagner du temps. Mais l'objectif, je dirais, c'est pas l'abbaye, hein, c'est pas que vous restiez là, sauf si en cas de soudaine vocation, voilà. Mais ce qui compte, c'est évidemment le monde où Dieu vous envoie. Hein, ici, c'est, encore une fois, je finis par là, hein, de vous donner quelques principes d'action, de vous permettre d'éclairer un petit peu la situation dans laquelle nous nous trouvons, et de vous permettre, là où vous êtes, eh bien, d'essayer de vivre de l'Évangile de la manière la plus, non pas la plus efficace, mais la plus féconde qui soit. Voilà, j'étais plus bref que ce matin, donc il reste encore quelques minutes pour des questions. Je termine sur une note, je n'irai pas négative, mais je crois d'un réalisme un peu ouf, voilà quoi, faut prendre ça dans l'estomac. Mais je crois que le but, c'est justement de nous aider à comprendre comment, voilà, le pourquoi la situation dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous avons aussi à répondre à notre vocation de baptiser de chrétiens.